Chapitre 10. Madame Mossette avait reçu une réponse de sa nièce et me la communiqua lorsque j'allais la voir le lendemain, qui était un dimanche. La correspondante donnait deux adresses de maisons susceptibles d'accepter mes ouvrages. Mais, ajoutait-elle, il serait inutile d'essayer si le travail n'était pas irréprochable et ne se distinguait pas des modèles courants par un goût personnel, un peu d'inédit, d'originalité. En lisant cela, je me souvins d'un mot de notre maîtresse d'ouvrage au couvent. « On ne pourra pas dire, Gilette, que vous imitiez personne. Tout ce qui sort de vos mains porte votre marque distinctive. » Peut-être les broderies faites depuis ma sortie du couvent sur des dessins imaginés par moi auraient-elles l'heure de plaire à ces commerçantes parisiennes. Ce serait, en ce cas, un petit appoint fort bienvenu à mes modestes ressources. Je choisis celles qui me semblaient les mieux réussies, des mouchoirs, des napperons et une robe d'enfant. Oh, la jolie petite chose! Voici que je me mis à rêver devant cette mousseline étalée sur mes genoux. J'imaginais là-dedans un corps frêle, des bras potelés sortant de cette manche brodée, un mignon visage rose émergeant de l'ouverture carrée autour de laquelle mon aiguille avait tracé de légères guirlandes de roses minuscules. Une toute petite voix disait « Maman !» et mes lèvres effleuraient la joue tiède, douce comme une corolle de rose, et je serrais contre ma poitrine ce petit être qui était une partie de moi-même. J'eus un brusque sursaut. Mes mains, involontairement, repoussèrent la robe légère qui glissa à terre. À quoi donc pensais-je là? Gilette Darbier, pauvre, ne se marierait pas. Elle n'aurait jamais la joie d'être mère. Ces bonheurs-là lui étaient interdits désormais. Je ramassai la robe et la pliai soigneusement avant de l'enfermer dans le carton prêt pour l'emballage. J'étais debout devant la fenêtre et la clarté du couchant m'entourait à cette heure tardive de l'après-midi. Mais je ne la voyais pas. Je ne voyais que mon cœur, qui était triste tout à coup, et la vie devant moi, sans famille, sans amour. Une larme glissa sur la mousseline et mouilla une des petites roses. Je pensais « Va-t'en, ma jolie robe, va parer un petit enfant inconnu. Tu ne seras jamais... pour celui que j'aurais su tant aimer, pour mon petit enfant, à moi. » J'allai le lendemain matin porter mon colis à la poste. Cela fait, je revins sans me presser par un chemin détourné. Je voulais passer près de la Bottellerie que je n'avais encore aperçue que de loin. Une route bien entretenue, longeant le haut mur roux qui clôturait le parc, m'amena devant la grille imposante près de laquelle se dressait la loge du concierge. Entre une double rangée de hêtres superbes et très vieux, montait une allée, au bout de laquelle se dressait une construction majestueuse, très grise, un peu massive, que des tourelles accolaient. Après y avoir jeté un regard, je continuai ma route. Tout en marchant, je revoyais les habitantes de cette demeure, aperçues précisément hier à la grand-messe où je me rendais pour la première fois. Madame de Trézonne était une petite femme un peu forte, blonde, très élégante. Comme je me trouvais placée non loin derrière le banc des châtelains, elle m'avait donné de continuelles distractions par les bâillements contenus et incessants qui soulevaient ses épaules sous le manteau de velours garni de fourrure. Sa fille lui ressemblait autant que j'avais pu m'en rendre compte. Toutes deux paraissaient s'ennuyer beaucoup et me rappelaient des élèves qui se contraignent sous le regard sévère du maître. Le maître, en l'espèce, c'était M. de Trézonne. Sa haute taille, d'une vigoureuse élégance, bien prise dans un par-dessus du grand faiseur, se dressait à l'entrée du banc et semblait écraser les deux femmes qui faisaient figure de poupées près de cet homme superbe. Il avait une attitude correcte et même respectueuse. Pendant le sermon, comme il se détournait un peu pour mieux entendre, je voyais son profil, vraiment très beau, et cette bouche dure, dédaigneuse, qui, me semblait-il, devait bien rarement sourire. En sortant, je demandai au bardôme « Il est donc bon chrétien, monsieur de Trézonne? Je ne me le figurais pas ainsi. » « Bon chrétien, ça dépend, mademoiselle Gilette. Il n'est pas bien pratiquant, mais il ne manquerait pas la messe, même en temps de chasse. Il dit comme ça qu'on a besoin de la religion dans la vie et qu'un trésor doit toujours donner l'exemple. » Je ne sais pourquoi, je m'étais imaginé tout autre le châtelain de la Potellerie. Et je fus satisfaite d'apprendre qu'il avait du moins un certain sentiment de sa responsabilité, de son devoir d'exemple à l'égard du peuple qui l'entourait. Je songeais donc ainsi aux habitants du château quand, sur la route, se profila une silhouette de cavalier. Je reconnus M. de Trézonne. Il venait au petit trot, bien campé sur l'animal nerveux et fin, à la robe sombre. Autour de lui gambadaient deux lévriers de course, de ces greyhounds fort à la mode. Quand il fut à quelques pas de moi, il salua d'un geste élégant et discret. En inclinant la tête pour lui répondre, je me mis à rougir aussi sottement que l'autre jour. Et je me sentis fort mécontente de moi-même en pensant qu'il allait me prendre pour une petite niaise. Était-ce curieux que l'air de ce pays me rendît si nerveuse, si facilement émotive ? Angélina flânait dans la cour quand j'arrivai à la meulière. Elle demanda, en me jetant son habituel coup d'œil en dessous, « Eh bien, vous avez fait votre course, mademoiselle. Le temps était-il beau ?»« Superbe. Aussi suis-je revenue en flânant. J'ai vu le château au passage. Il a très grand air. » »« Et dedans, c'est si beau, paraît-il. On dit que M. de Trézonne a beaucoup de goût et qu'il ne regarde pas à l'argent dès qu'une chose lui plaît. » « Je viens de le rencontrer, monsieur de Trézonne. Il monte admirablement à cheval. »« Oh oui !» Une lueur ardente passait dans les yeux bleus, une rougeur montait au teint clair sous la poudre. Angélina ajouta, « Il n'a pas son pareil dans tout le pays. » De la salle, Catherine appela, « Dis donc, petite, viens m'aider un peu. » Elle s'éloigna et je gagnai mon logis. Je pensais avec stupéfaction, est-il possible qu'elle soit amoureuse de lui ? Non, ce sont des idées que je me fais. Mais je me rappelais maintenant son émotion à peine contenue, son empressement à la fois humble et hardi, le jour où il était venu à la métairie. Et chaque fois qu'on parlait de lui devant elle, je m'en souvenais aussi, elle avait ses yeux-là et elle devenait presque jolie. Quelle folle ! Quelle folle ! Que dirait Catherine si elle savait à quelles imaginations romanesques se laissait aller la cervelle mal dirigée de sa fille? Et lui, connaissait-il cette passion villageoise dont il était l'objet? S'en occupait-il ou feignait-il de l'ignorer dédaigneusement? Un jour, comme nous parlions du châtelain de la Botellerie, je ne sais plus à quel propos, Bardot m'avait dit « Monsieur le Vicomte est fier et pas commode, mais ça n'empêche que toutes les femmes sont toquées de lui, depuis les grandes dames de Paris jusqu'à nos jeunes filles du village, rapport à ses yeux, je pense, qui ne sont, bien sûr, pas ceux de tout le monde. » Ses yeux, je les avais trop peu vus pour dire ce qu'ils étaient, mais de cette vision rapide, il m'était resté l'impression d'un regard plein de puissance. Cet homme, s'il aimait, devait être un maître exigeant, inflexible et si froid. Je frissonnai légèrement tout en introduisant la clé dans ma serrure. Certainement, je comprenais très bien que cet élégant et hautain grand seigneur, fort bel homme d'ailleurs, parut à ces petites villageoises une sorte de demi-dieu qui exaltait leurs jeunes imaginations. Mais je me demandais comment une femme de son monde pouvait souhaiter de devenir son épouse, c'est-à-dire l'esclave d'une volonté qui devait être intraitable si l'on en croyait l'opinion générale. « Ah, il est très riche, c'est vrai, » pensais-je tout à coup. « Il y a des femmes qui trouveraient là une compensation à toutes les servitudes. Je ne sais quel cœur elles ont, celles-là. Moi, je serais si malheureuse dans des conditions pareilles. Et je crois que j'aurais aussi un peu souffert si j'avais épousé le docteur Bordet, car il n'aurait su être qu'un compagnon charmant. Un mari, ce doit être autre chose. Je voudrais qu'il fût un ami très bon, très tendre, beaucoup plus fort et plus sérieux que moi, et qui devint mon confident, mon conseiller. » Arrivé à ce point de mes réflexions, je m'avisai qu'elles n'étaient que rêveries inutiles, et je leur imposai silence. Je m'installai donc dans ma chambre pour travailler un peu avant le déjeuner. Mais tandis que mon aiguille allait et venait lentement à travers la toile fine, Je pensais encore à Angélina, à la découverte que je venais de faire de ses sentiments à l'égard du châtelain. La mère devait les ignorer. Si M. de Trézonne n'y accordait pas attention, cette folie tomberait à plat et la leçon serait bonne pour la vanité de cette pauvre fille. Mais si, au contraire, il s'amusait de sa sottise. Je revis à ce moment, dans ma pensée, le visage froid et dur, à la bouche orgueilleuse, le visage altier et plein de distinction. Et je songeai, non, cet homme-là n'aura même pas l'idée d'arrêter son regard une minute avec quelque complaisance sur cette coquette vulgaire et prétentieuse. Il ne voudra jamais s'apercevoir d'une passion qu'il doit si profondément dédaigner.